Monsieur Truchon, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Truchon, nous nous sommes quittés la dernière fois sur certains aspects du fonctionnement de la septième béatitude, c'est-à-dire les moyens que vous nous proposez pour l'actualiser. Dans le débat sur la paix, il est question évidemment de violence et de non-violence. Vous parlez d'une violence physique et d'une violence intérieure, en affirmant qu'elle est souhaitable parce qu'elle mène à une prise de conscience des folies engendrées par nos vices personnels, sociaux, internationaux, et sans rejeter qui que ce soit. Fin de la citation. Mais est-ce qu'on peut prendre conscience de tous ces vices dans le monde sans avoir le réflexe d'attribuer des blâmes? Ça me paraît impossible, M. Truchon, de connaître la cause d'un mal, surtout social et international, par exemple, sans souhaiter que justice soit faite. Autrement dit, selon moi, il faut porter le blâme sur les responsables, il faut les pointer du doigt. On peut pas faire autrement.
Oui, en un premier temps, c'est probablement ce qu'on est porté à faire. Ça fait partie d'une dynamique de la thérapie, tout le monde le sait. On commence d'abord par nier un problème, ensuite on le met sur le dos d'un autre. C'est facile, la table sur laquelle je me cogne le matin, fait 20 ans qu'elle est là, mais je me dis qu'elle n'a pas d'affaire là. Troisième étape, c'est qu'on négocie, on dit c'est vrai, je dois avoir du tort. Quatrième étape, on prend tout sur notre dos, on fait une dépression. Finalement, cinquième étape, on sort de la dépression. Ben, c'est évident qu'il y a une étape où on met tout sur le dos des autres. Mais justement, l'Évangile, et en particulier les Béatitudes, nous apprennent un cheminement qui fait partie aussi de ce fonctionnement qu'on vient de décrire, qui est naturel, mais qui va en plus encore en profondeur et d'une façon quasiment paradoxale. Et tout ça, c'est à cause du Christ. Alors, au fond, nous sommes en train de parler de paix. J'aimerais qu'on refasse un petit résumé de la dynamique du fonctionnement de cette béatitude-là, pour revenir aussi à des solutions concrètes des conflits personnels et même collectifs. Mais nous verrons tout de suite qu'il y a deux justices, comme nous l'avons déjà dit dans Béatitude des affamés et assoiffés. Et tout de suite, il faut faire le point sur ça. C'est qu'il y a la justice extérieure, c'est-à-dire avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre, pour qu'on se développe, maison, biens matériels, santé et éducation. Et aussi une éducation spirituelle. Mais il faut aussi un mouvement personnel et intérieur qui, lui, est libre et qu'on peut appeler la justice intérieure, qui est un travail sur soi-même d'abord. Et dans la Bible, c'est toujours la même constante. C'est un travail sur soi d'abord qu'il faut faire parce que, justement, l'artisan de paix va nécessiter le cœur pur. Alors, c'est pour ça qu'il faut analyser le lien et revenir sur le cœur pur et revoir un petit peu la miséricorde. Et ensuite, on pourra situer mieux la dynamique, le profil et les fonctionnements de l'artisan de paix.
Monsieur Truchon, je reviens sur la fameuse phrase dans laquelle vous dites « sans rejeter qui que ce soit ». Si je comprends bien, à cette violence intérieure, vous ajoutez aussi l'exigence d'une espèce de pardon universel, parce qu'en ne rejetant personne, on pardonne implicitement à tous, non?
C'est là qu'on devient thérapeute, justement, parce que le thérapeute, c'est justement le contraire d'un juge. Jésus se dit médecin, il dit qu'il nous demande de ne pas juger. Pourquoi? Parce qu'il nous oriente vers une direction de thérapie. Alors, dès qu'un thérapeute commence à juger son client, c'est fini, la relation vient de se terminer. Alors, c'est évident qu'il y a une acceptation inconditionnelle de l'autre pour dissocier, justement, chez l'autre, le fonctionnement qu'il rejette son comportement de sa personne elle-même. Et la thérapie va vraiment commencer quand cette distance va commencer à se faire saisir chez le thérapeute, c'est-à-dire l'altérité qu'il y a entre lui et moi, les thérapeutes et lui, et aussi entre son fonctionnement et lui-même. Et là, il commence à retrouver une liberté de choix et finalement une autre orientation et un bonheur de vivre.
Monsieur Truchon, est-ce que c'est le moment de parler de ce que vous appelez le principe de non-violence active?
Oui, ça, nous le creuserons, j'espère, et non seulement j'espère, je pense bien qu'on le fera, dans la béatitude des persécutés. Mais déjà, il faut y toucher dans l'artisan de paix, et surtout quand nous acheverons cette béatitude-là des artisans de paix. Alors, si vous voulez, nous reportons encore un petit peu, peut-être la semaine prochaine, cette histoire-là de non-violence pour l'artisan de paix, pour ensuite commencer les persécutés. Mais avant tout ça, là, il faut la guérison du thérapeute. On s'improvise pas thérapeute comme ça, on décide pas, c'est pas comme poser un pneu sur un automobile d'être thérapeute, ça. Il faut une qualité de vie du thérapeute. sans ça, il projette sur l'autre ses problèmes, il pose des jugements, et finalement, même, il peut exercer des vengeances plus ou moins conscientes ou inconscientes. Alors, le thérapeute, comment est-ce que lui devient thérapeute? On a vu ça dans la béatitude des doux, mais pour couper court ici, au niveau de la béatitude elle-même, c'est l'expérience de la miséricorde divine, c'est l'expérience de l'amour inconditionnel chez le thérapeute qui va en faire un présumé thérapeute.
Parmi les définitions que vous donnez de l'artisan de paix, vous avez celle-ci. Vous dites que l'artisan de paix, tout comme Jésus, c'est celui qui déteste à mort, à en mourir, tout ce qui est contraire à la réalisation d'un seul homme. Fin de la citation. Ça me paraît très simple, très évident, mais aussi très vaste. Et surtout, ça fait énormément de choses et de personnes peut-être à détester.
Oui, ça fait même rire parce que un programme semblable, c'est pas un Père Noël ordinaire. Autrement dit, c'est tout un programme. Mais c'est justement la paix du Christ. C'est d'abord le Christ lui-même, c'est-à-dire une réalisation parfaite du plan de Dieu chez l'homme, de l'homme. Et le Christ, c'est l'homme nouveau. C'est celui qui est en paix. C'est celui qui est la paix. C'est celui qui est la source de la paix. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé chez lui tout le plan de Dieu intégral. Le mystère de la personne, au sens personnel et collectif, tout ça est réalisé chez le Christ total, qu'on appelle le Christ total, c'est-à-dire le Christ, la personne physique du Christ d'abord, ensuite le Christ eucharistique, sa présence eucharistique, ensuite le Christ sous sa présence mystique que nous sommes, et ensuite finalement sous sa présence même cosmique. Et alors, c'est cette réalisation du Christ qui nous est offerte dans la foi et qui nous sera donnée et qu'on pourra vivre d'autant plus que notre foi sera grande dans cette réalisation qui est déjà accomplie chez le Christ. Et c'est le pardon total et infini. Alors ici, j'aimerais lire par exemple Romains 1. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il va sans dire que c'est avec nous-mêmes aussi, parce que si nous sommes en paix avec Dieu, c'est parce que Dieu a fait la paix en nous et avec nous. Alors, il sera juge entre les nations, juge, oui, mais libérateur, l'arbitre de peuples nombreux, martelant leurs épées, ils en feront des socs, c'est-à-dire qu'on arrêtera de faire la guerre, et on continue le texte, on ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Cette béatitude-là de la paix que nous sommes en train de voir, ce qui a été d'ailleurs l'homélie de Noël du pape Jean-Paul II, c'est certainement la promesse de l'an 2000. La paix dans le monde, les nouveaux saints de l'an 2000, c'est des pacifiants.
Nous poursuivons notre étude de la septième béatitude avec Monsieur Truchon. Ici Aline Lesage, Monsieur Truchon, dans votre fameux tableau de correspondance des vertus, des dons et des fruits, je remarque que vous associez l'artisan de paix, vous associez la vertu de tempérance. Qu'est-ce que la tempérance vient faire là-dedans?
Ouais. Alors, reprenant un petit peu la relation entre les artisans de paix et les cœurs purs, nous allons tout de suite comprendre. Et disant tout à l'heure que la grande béatitude de l'an 2000 sera probablement les artisans de paix, c'est-à-dire une humanité plus pacifiée et vers laquelle nous travaillons, ça paraît assez évident et nous en avons des signes que nous pourrons parler à un moment donné. Alors pourquoi l'artisan de paix? D'abord, les deux grandes qualités entre guillemets de notre siècle ou des gens d'aujourd'hui, c'est peut-être d'être mêlé puis d'être stressé. Pourquoi mêler? Parce qu'il y a tellement d'opinions qui circulent, toutes les religions s'annoncent avec leurs bénéfices, avec leurs à-propos et avec raison aussi leurs avantages. Et aussi, tout est quasiment mis sur le même pied, évidemment, sans jugement. D'ailleurs, je profite pour donner une émission actuellement en cours, Sous le regard de Dieu, une émission qui étudie les cinq grandes religions du monde et en leurs quatre aspects fondamentaux. Et tout ça est fait sans la critique d'aucune. Et tout ça est fait sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans une tendance à la paix. Et je trouve cette émission merveilleuse parce que, justement, c'est un peu une émission prophétique pour le temps qui s'en vient. Alors, la relation entre l'artisan de paix et le cœur pur, c'est que si le gars qui se veut artisan de paix ou thérapeute n'est pas de mêler lui-même, comment voulez-vous qu'il en ait d'un autre? Puis être de mêler soi-même, là, ça ne veut pas dire rien que savoir où se trouve une chaise puis une table, ça. Ça veut dire une maîtrise de ses instincts, une certaine orientation de ses tendances, une prise de conscience de nos tendances, une certaine liberté face à ces tendances-là pour toujours respecter et favoriser l'altérité, c'est-à-dire le respect de soi puis le respect de l'autre. Le cœur pur, c'était de découvrir qu'on est un projet, un grand mystère merveilleux et infini de Dieu, qui est appelé à se construire et à partir de notre en correspondance avec l'initiative divine. Alors cet artisan, ce cœur pur, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus lui-même, de moins en moins mêlé et par le fait même de moins en moins stressé, de moins en moins manipulable, de moins en moins facile à fourvoyer dans des relations, dans des discussions, dans des prises en charge ou dans des travaux, elle reste. Alors, il y a une relation entre l'artisan de paix et le cœur pur, c'est que, au fond, le cœur pur étant un voyage de noces avec soi-même et avec Dieu, ben, on accepte et on espère de le favoriser chez d'autres. Alors, de même que le cœur pur, c'est la vision, ou si vous voulez, la méditation du chef-d'œuvre du travail de Dieu en nous-mêmes, dans son plan infini, et on a vu ça avec Éphésiens 1:3, Dieu m'a rêvé de toute éternité, eh ben, ça donne le goût d'amour, de l'amour des autres et d'un amour véritable et authentique. Et au fond, on souhaite aux autres ce qui nous est promis et ce qui est en train de nous arriver. Et c'est pour ça que la paix est un salut chez les Juifs qui, au fond, souhaitent à l'autre le plan de Dieu chez lui-même, c'est-à-dire chez l'autre. Et l'autre répond « Shalom aussi », c'est-à-dire « Moi aussi, je te le souhaite ». Parce qu'on se rappelle que le sens premier du mot paix, c'est d'abord le sens eschatologique, c'est-à-dire la réussite de soi selon le plan de Dieu. Deuxièmement, le plan actuel, c'est-à-dire travailler au développement de la personne, tant au plan personnel que collectif et des peuples. Et troisièmement, c'est la foi pour le faire. Alors, la foi pour le faire, au fond, tout est là.
Monsieur Truchon, j'ai l'impression que les béatitudes, plus on les acquiert, moins on les possède. Je vais vous refaire ma question. Vous affirmez que la famille de justice, par exemple, a soif justement parce qu'il est en voie de libération et de plus en plus assoiffé à mesure qu'il approche du terme. Évidemment, il y a une contradiction là-dedans.
Ce qu'on appelle le formule paradoxe, que j'aimerais toujours mieux que le mot contradiction, mais que les gens emploient tout le temps, contradiction, qui est au fond un paradoxe, c'est-à-dire un renversement de ce qui avait été prévu. Alors, par exemple, pour devenir amoureux, il faut être autonome. Pour être autonome, il faut posséder, il faut avoir un savoir, un pouvoir, un avoir, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une profession, et tout ça. Mais quand on tombe en amour, on donne tout ça, on n'a plus rien. Puis pourtant, ayant plus rien, ayant tout donné, on est plus heureux que jamais. Autrement dit, on a une liberté libérée. Alors, les béatitudes, non seulement on ne les acquiert pas, on est appelé à collaborer à Dieu qui les a déjà mises en nous et nous avons à les développer. Mais plus elles se développent, plus nous sommes possédés par l'être aimé. Mais quand on est possédé par un être qui nous aime vraiment, c'est-à-dire qui nous respecte, on est de plus en plus libéré.
Ce que vous dites, c'est qu'on possède en soi le germe de toutes les béatitudes.
En soi, on le possède parce qu'il nous a été donné. Parce que plus on avance vers Dieu, plus on découvre que tout est donné.
Mais c'est beaucoup de travail de pouvoir l'actualiser,
oui,
de pouvoir le découvrir.
C'est un grand bonheur progressif que de se construire, parce que en réalisant nos puissances, elles se développent. En se développant, nous sommes de plus en plus puissants pour les développer. Mais ce développement-là du moi, et finalement, arrive à pouvoir habiter une autre personne et travailler à la construire aussi. Donc le cœur pur, nécessairement et en même temps, appelle un travail sur les autres et avec les autres. Mais surtout, je souligne le mot « avec les autres ». Et non pas sûr, parce que c'est l'autre qui est toujours libre. Si Dieu est tout puissant, il y a une chose qu'il a voulu ne pas faire, c'est ne jamais obliger à la foi ni à l'amour.
Alors comment est-ce que la foi peut être un don?
Elle est un don, seulement qu'elle n'est pas imposée. Elle est un don offert et Dieu ne forcera jamais
alors
quelqu'un.
Alors, on l'accepte librement.
Toujours, partout, jusqu'au ciel inclusivement, comme deux amoureux qui s'obligent jamais, mais que le sourire de l'un incite toujours l'autre à prévenir les désirs de l'un.
Monsieur Truchon, vous écrivez que la non-violence physique, la violence intérieure, elle est vraiment génératrice de paix à long terme. Et c'est l'expression à long terme sur laquelle j'accroche ici, sur laquelle j'accroche. Vous parlez, je crois, de la vie éternelle. Alors, est-ce à dire que d'ici là, d'ici à la vie éternelle, il n'y a pas de paix possible?
Non, il y a une paix possible, mais en devenir toujours à cause du germe, c'est que la passion est à court terme, mais la compassion est à long terme, parce que l'amour est éternel par nature.
Est-ce que vous pouvez répéter lentement, M. Truchon?
Oui, ça vaut la peine. La passion est toujours à court terme. Je commence une tarte aux cerises, je suis en train de la manger, au moment donné, est finie, il n'y en a plus. Alors, et même s'il y en avait d'autres, j'ai plus faim, puis si j'en rentre un autre, il ressort. Autrement dit, la passion est toujours à court terme. Mais une passion peut se transformer en compassion, c'est-à-dire en amour véritable, même dans des situations souffrantes. Et là, non seulement elle est à long terme, elle est éternelle. Alors là, on a une passion comme Saint-François en vivait, en particulier, c'est-à-dire qu'il aimait tout le temps.
Au sujet des moyens, parce que je pense qu'il faudrait parler des moyens pour devenir des artisans de paix, comment, par exemple, est-ce que moi, dans mon petit univers, ma famille, mon travail, je peux arriver à me transformer en artisane de paix parce qu'il y a un processus de métamorphose là, intérieur? Comment ces moyens sont-ils différents, par exemple, de ceux que vous proposez pour les doux ou les miséricordieux?
D'abord, quand je vous regarde, je vois pas un petit univers, je vois l'univers entier parce que une personne, c'est un pays, et un pays, c'est un continent. Quand on aime une personne à fond, on aime toutes les personnes. Alors, c'est pour ça que, détestant une seule personne, on a un problème avec tout le monde. Autrement dit, la personne, c'est un résumé de l'univers. Et chaque personne est infinie comme projet, et elle nous fait communier à toutes les autres personnes de l'univers. Dans le christianisme, ce qu'il y a d'étrange, c'est que la charité n'est pas un idéal. Dieu dit pas « aimer tout le monde », ça veut dire rien. Il nous dit « aime ton prochain », celui qui est proche. Et plus tu aimes celui qui est proche, plus tu te réconcilies avec toutes les personnes du monde. Alors ça, c'est déjà un mystère qu'on pourrait creuser à un moment donné. Pour répondre à la question posée, le processus et les moyens, il faut étudier le profil, le portrait robot de l'artisan de paix. Et si vous voulez, nous allons commencer ça tranquillement, pas vite, parce qu'il y a du stock là-dedans.
Nous traitons de la septième béatitude, les artisans de paix. Monsieur Truchon, vous allez nous donner le portrait robot de l'artisan de paix.
Oui, et évidemment, tout ça est pris dans la Bible, là, sans donner toutes les références. Alors, va y aller bien doucement, parce que ça, c'est toute une histoire. Et je crois que notre siècle est vraiment embarqué là-dedans, comme béatitude spécifique. C'est peut-être la grâce de notre siècle, tout ça. Les saints de l'an 2000, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un gars démêlé, ça ressemble à un gars qui est pas stressé, ça ressemble à un gars qui est mondial, qui a une vision globale, mondiale, universelle. Il est plus rien que dans sa petite cour avec sa petite boîte à lunch. Il est mondial, il écoute les nouvelles de partout, il est au courant de toutes les religions. C'est un gros village. Et déjà, c'était dans l'Évangile, ça. L'Évangile était mondial. Alors, qu'est-ce que c'est que l'artisan de paix? Et là, j'ai vraiment conscience qu'on est dans l'actualisation fondamentale, non seulement des béatitudes, mais de l'Évangile pour notre temps, à une dimension qui n'a jamais existé comme telle dans l'histoire de l'humanité. Alors, première qualité de l'homme, de l'artisan de paix, c'est un homme du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un homme qui a découvert les problèmes de son temps, puis qu'il les a vécus, puis qu'il les vit.
Pour être artisan, il faut donc être actuel.
Il faut, évidemment, il faut être de son siècle.
L'artisan de paix au 19e siècle n'est pas l'artisan de paix d'aujourd'hui.
Il n'est pas le même. Ni du Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, on a d'autres types de problèmes. Il y a encore des problèmes similaires à ceux du Moyen-Âge. Mais les problèmes fondamentaux sont différents à chaque siècle. Et c'est ça qui aide à Dieu C'est ça que Dieu a prévu dans son plan pour se montrer vivant, c'est qu'il fabrique des hommes, non pas du Moyen Âge, parce que ce serait des pièces de musée qui se promènent sur le trottoir. Il n'est pas pour nous faire promener Abraham avec un chameau sur quatre bourgeois. Ça marchera pas, ce saint-là, là. Alors, il faut qu'il nous fabrique des hommes qui règlent les problèmes de notre temps. Et là, Dieu, à ce moment-là, on le découvre comme vraiment vivant, parce que c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est pas le Dieu du Moyen-Âge, c'est pas le Dieu... Même pour fabriquer un saint québécois, Dieu s'y prend pas de la même manière fabriquer un saint français. Il part pas pareil, un anglais non plus. Parce que c'est pas pareil, ces personnes-là. Alors, non seulement la culture est nécessaire pour fabriquer un saint, non seulement il faut la connaître, non seulement il faut la réaliser, il faut la dépasser, mais on peut pas passer outre. Alors Dieu, évidemment, qui est l'artisan de l'homme, c'est lui qui le fabrique, qui est l'ouvrier, qui nous demande de participer à ce travail-là, il faut qu'il nous fasse découvrir les problèmes de notre temps. Or, chose curieuse, ce qui nous fait découvrir les problèmes de notre temps, c'est pas en mettant l'Évangile à date, c'est en découvrant l'Évangile qu'on se découvre exactement dans notre temps, parce que l'Évangile nous libère des problèmes qu'on a. Or, les problèmes qu'on a, c'est pas les problèmes du Moyen-Âge. Moi, je me promène pas avec une seigneurie comme au Moyen-Âge. On a encore des petits terrains qui s'appellent la seigneurie d'un tel, là. Mais ça, c'est du folklore. Alors, aujourd'hui, on est dans une société démocratique, on est dans des gouvernements, on est dans des compagnies, on est dans des multinationales, on est dans des organismes mondiaux, économiques, ça s'en vient au plan culturel. Alors, c'est faut que ça soit... Un saint, c'est quelqu'un qui va travailler avec tout ça. C'est pas quelqu'un qui va travailler comme au Moyen-Âge avec... aujourd'hui, c'est assez mécanique, c'est tout un autre monde.
Peut-être, mais strictement parlé, oui. Même la génération qui précède ne pourrait pas nous reprocher d'avoir des méthodes différentes dès là. Comprenez-vous?
Jamais on aura les mêmes choses. Nos enfants qui s'en viennent, là, qui vont être demain, là, ils vont s'y prendre d'une manière moins différente qu'au Moyen-Âge. Plus différente qu'au Moyen-Âge, là, ça veut dire que plus on est proche, évidemment, moins il y a...
Mais
c'est terrible comment que l'écart de 10 ans en 10 ans est effrayant. Alors, c'est certain que nos enfants qui viennent au monde en pitonnant l'ordinateur, qui peuvent aider un gars de 50 ans qui est pogné avec un logiciel, il y a rien qu'à arrêter un petit jeune dans le cours, puis il dit « Viens donc m'aider », puis le jeune va le dépanner, tu sais. Puis le jeune, lui... Pour lui, il n'y a aucun problème à peser sur un piton, mais le vieux, il a peur que tout va tomber, lui, en pesant là-dessus. Alors, c'est pour montrer que... Alors, maintenant, quels sont les problèmes fondamentaux de notre temps? Je crois qu'il y en a deux gros. Le premier, c'est d'être mêlé, puis deuxièmement, d'être stressé, de faire une angoisse folle. Mais là-dedans, il y a des solutions mondiales, il n'y a pas rien que des problèmes. Ce qui est arrivé dans notre génération à nous autres, je parle de moi, le 64 et 20 en montant, ce qui est arrivé, c'est que on a eu peur tout en même temps à cause de la bombe atomique. Ça n'a jamais arrivé dans le monde. Tout le monde avait peur en même temps de la même affaire, parce qu'on était bien trop dans nos petits coins. Alors, est apparue une peur mondiale. Et en même temps, est apparu un souci mondial d'en sortir. Et voilà pourquoi tout est mondial maintenant et que nous et les petites guerres, tout ça, ça marche plus. On essaie d'arrêter ça. Ou en tout cas, quand on en tire profit, peut-être qu'on les retarde. Mais alors, l'artisan de paix, c'est quelqu'un qui devient heureux dans son siècle en repérant les problèmes fondamentaux de son temps, puis en y trouvant des solutions assez adéquates pour lui-même d'en sortir un peu pas mal.
Alors, l'artisan de paix, il est également ça, stressé, mêlé, perturbé.
Au début.
Au départ.
Au départ.
Mais il est également ça.
Non seulement, il est nécessairement ça. Et quand on devient missionnaire, c'est la même chose, parce que l'artisan de paix, c'est un missionnaire, ou le missionnaire, c'est un artisan de paix. Quand le missionnaire arrive dans un pays étranger, il faut qu'il commence par vivre les problèmes de là, ensuite les ressources de là, puis en invente d'autres. Mais s'il arrive avec son tracteur de 200 millions de je sais pas quoi d'ailleurs, puis qu'il veut installer cela, c'est fini, il y a même pas de gaz. Alors, ça marchera pas. Alors, c'est ça le principe de l'incarnation. Alors, la thérapie, c'est d'abord l'acceptation inconditionnelle de l'autre avec ses problèmes. L'artisan de paix, c'est d'abord qui sait accepter lui-même avec ses problèmes, qui se prend pas pour d'autres, puis qui voit que l'autre a des mêmes problèmes, parce qu'on est quand même dans le même siècle. Alors, il voit que l'autre est poigné aussi, qui est stressé, qui est angoissé, qui est mêlé, puis que lui, tentant et étudiant et travaillant à se démêler, il trouve un bonheur à se réaliser, puis il dit, ben pourquoi que l'autre serait pas intéressé à ça? Alors, au fond, c'est sa première qualité, c'est de communier à l'autre tel qu'il est.
Votre artisan de paix, au fond, il est très humain.
pour ça qu'il va être non-violent, voyez-vous, maintenant, parce qu'il partage ses problèmes avec l'autre. Il n'arrive pas comme un Père Noël qui est chromé, qui n'a rien, ou qui va tout régler les autres en disant « moi te régler ça, moi te régler ça ». Il est pogné, lui aussi. Seulement qu'il a travaillé à se dépogner, et finalement, il trouve qu'avec l'autre, on peut s'en sortir. Mais c'est pas fini, il faut commencer par accepter le problème. Parce que la première qualité pour guérir un alcoolique qui se fuit lui-même, c'est qu'il accepte de se dire alcoolique. Mais tant qu'il dit que je ne le suis pas, il n'y a rien à faire.
Alors, votre portrait robot, est-ce qu'on peut le poursuivre?
Certainement. Alors, donc, un homme du peuple, c'est-à-dire qui ne sert pas de l'argent, qui ne sert pas de son savoir, qui ne sert pas de son pouvoir pour fuir le problème des pauvres. Parce qu'on peut par l'argent, on peut par le pouvoir, on peut par la science fuir les problèmes, passer à côté. Et à ce moment-là, le peuple, lui, reste pogné avec ses problèmes. Parce que l'artisan de paix, c'est un homme du peuple qui travaille au salut du peuple. Il travaille pas rien qu'au salut de la hiérarchie ou des riches, il travaille au salut de l'homme. Or, l'homme, c'est l'homme. Partout, c'est l'homme. Dès qu'il voit un homme, il voit l'homme. Dès qu'il voit l'homme, il voit l'humanité. Alors, qu'il soit riche ou pauvre, ça, c'est une autre chose. Mais il voit d'abord un homme. Il sait c'est quoi qu'un homme. Pourquoi? Parce que lui, il a fait un travail intérieur sur lui-même pour savoir qu'un homme, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau de se découvrir un homme. C'est pas un cadeau de devenir un homme. C'est une grosse tâche. C'est pour ça qu'on appelle artisan de paix. La béatitude, elle dit pas les jouisseurs de la paix, elle dit les ouvriers de la paix. C'est un travail.
Je vous entends et ça me fait réfléchir un petit peu que si on veut être artisan de paix, je pense bien qu'on peut pas l'être. On peut pas être ça à 20 ans. On est en processus et probablement qu'on peut être un meilleur artisan.
On y travaille constamment.
Avec le temps.
Avec le temps. Moi, j'ai 64 ans en septembre, puis je suis en train de réaliser mon adolescence. Ça fait qu'il faut pas se décourager.
D'accord, M. Truchon. Notre portrait robot, est-ce qu'on l'achève?
Oui, on peut continuer. On n'achève pas, on fait juste commencer. Alors, est-ce qu'un membre de la hiérarchie, par exemple, un évêque, est-ce qu'un pape, est-ce qu'un premier ministre peut être artisan de paix s'il faut être un homme du peuple? Est-ce qu'ils font partie du peuple? Ils ne font même pas partie d'une autre classe ailleurs. Ben, il faut qu'ils communient aux problèmes du peuple. Et ça devient urgent pour chacun de ces hommes dirigeants d'avoir des amis dans des hommes qui souffrent. Et dans des situations concrètes qui souffrent. Si eux autres ne vivent pas à 100% les problèmes du peuple parce qu'ils en sont mis un peu à part, il faut qu'ils n'aient jamais la communion au peuple. Et quand on verra une parabole, parce que j'espère qu'on verra des paraboles en septembre, il y en a une qui sera le Lazare et le pauvre et le riche, on va toucher du doigt. Parce que n'oublions pas que les paraboles vont nous faire creuser béatitude. Mais avant de les creuser, on peut commencer à les approcher. Alors, la deuxième qualité du problème, on a de l'ouvrage là-dedans.
Je vois ça, monsieur.
Vouloir, on continuerait dans le premier, mais passons à deux. Alors, le problème en lui, deuxième qualité du portrait robot de l'artisan de paix, c'est que son problème est en lui relativement réglé. Relativement réglé. Quand je dis relativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, il l'a réglé. Comment? Et là, je parle au niveau de la béatitude au sens strict. Il y a d'autres niveaux, là, en étudiant, en ayant une bonne profession, tout ça, ça aide à vivre. Mais au niveau strictement théologique et au niveau de la foi, voici comment il a relativement réglé son problème. C'est par la miséricorde divine, il est sûr d'être pardonné de Dieu pour l'éternité. Donc, son passé est réglé. Deuxièmement, son futur est réglé à cause de son espérance. Ça ôte des moyens sacs de sable sur le dos, ça. Et troisièmement, il peut vivre dans le monde présent à cause de sa foi. Alors, c'est un problème, et on verra dans sa troisième qualité. Je ne sais pas si le temps nous...
Oui, je crois qu'on va devoir terminer bientôt.
On va arrêter là, bon, OK.
Alors, encore une fois, c'est tout le temps que nous avons. Nous allons donc poursuivre la semaine prochaine avec le portrait robot de l'artisan de paix, et peut-être aussi avec vos commentaires, entre autres, sur les fruits de la béatitude des artisans de paix.